Parler ce soir d'une migration. Cette migration, elle est causée par une famine. On avait déjà vu ça au temps d'Abraham Avinu. On avait déjà vu ce schéma d'une famine, une migration en fait vers l'Égypte. Le temps d'Abraham, ça s'était mal terminé, avec le problème de Sarah qui avait été faite prisonnière, ensuite libérée. On lui a d'ailleurs donné à Sarah, Pharaon lui a donné une province dont on va parler par la suite. Disons, au moment de cette migration, il y a eu le rapt de Sarah, et puis ensuite il y a un dédommagement de Pharo à Sarah, et entre autres c'est la province de Goshen. Ça c'est déjà ce qui a déjà eu lieu au temps d'Abraham Avinu. Rebelote recommence encore une fois. Il y a de nouveau une famine. De nouveau une migration. De nouveau en Égypte. Cette migration-là, elle fait que les gens qui sont partis à cause de la famine se retrouvent donc en Égypte pour acheter du blé, et ils ont affaire à un roi, enfin disons, on va dire un roi, mais ils ont affaire à un roi étrange. Ils posent des tas de questions, il a des exigences dont on ne comprend pas du tout en quoi elles ont à voir avec la raison pour laquelle ils sont vraiment venus, on les accuse d'être des espions, etc. Ce roi étrange, il fait en sorte que les migrants s'installent. L'installation des migrants s'installe en Égypte. Et tout va très bien. Et ensuite, il y a un changement politique. Et la conséquence, c'est que ils sont devenus très anti-migrants. Anti-migrants, même les migrants installés, contre les migrants. Puis il va y avoir de la part de ces migrants, il va y avoir une révolte. Et les migrants vont quitter l'Égypte, les migrants quittent l'Égypte et retournent dans leur pays, dans le pays de Canaan, d'où ils venaient. La famine était une famine en Canaan. Bon, alors vous avez bien reconnu la situation. Le roi étrange, c'est donc Yosef. L'installation, c'est que même donc tous les descendants, donc on va dire Jacob, etc., c'est eux qui s'installent. Le changement de politique, c'est le nouveau roi. Ou bien un roi qui a changé le monde politique. Anti-migrants, c'est quasiment esclavage. Les migrants. La révolte, ils vont se révolter, mais ils vont être guidés par Moshe Rabbeinu. Aidés par Hachem, évidemment. Ils vont quitter, c'est ce qu'on appelle, nous, la sortie d'Égypte. et vont retourner ce que nous on appelle Eretz Israël. Ça c'est le schéma général.
Je pense que tout le monde le connaît, j'ai juste écrit pour que ce soit clair.
Si on regarde un petit peu plus près un peu l'histoire, on a Bereshit, donc c'est la création. Ensuite, on a le Maboul, le déluge, la destruction totale de la terre. Ensuite, on a la dispersion. On s'occupe à ce qu'on appelle la tour de Babel. Ça s'appelle Aplaga, Palaga. Et ça a lieu à cette époque-là, c'est l'époque d'Abraham. Ensuite, il va y avoir la chaîne que tout le monde connaît, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite, les 12 frères, 12 fils de Yaakov. Le problème de la rivalité entre Yosef et Yehuda. Et cette rivalité va amener Yosef en Égypte. Et il va devenir, lui, le fameux roi étrange ici, qui va permettre à Yaakov et toute la famille de descendre, s'installer en Égypte. Ils vont s'installer, en principe, justement dans cette province de Goshen. Et puis ensuite, ça va mal tourner. Ils vont devenir esclaves. Et puis, bon, ça va, en gros, en Égypte, ils vont rester 210 ans. Ce ne sera pas tout de l'esclavage. Et ils vont sortir au bout de 210 ans. Ce qui est important, ce qui va être important pour nous, c'est que quand Yaakov va descendre avec ses enfants, que ça descende, s'installer en Égypte, d'accord, il va y avoir quelque chose de très important, il faudra qu'il soit 70. Il y a 70 personnes, en fait il y en a plus parce qu'il y a des femmes, des enfants, etc., mais il y a 70 personnes qui descendent en Égypte. Ce chiffre va être important. Et par contre, quand on va sortir d'Égypte, alors on aura 60 myriades, c'est-à-dire 600 000 si vous préférez. J'ai écrit comme ça parce que ce 10 000 ici, ça s'appelle une myriade. Et on va parler justement du fait qu'on compte en termes de myriades. Donc il faut qu'il passe dans ce laps de temps de 70 à 60 myriades. C'est aussi seulement les hommes. Il y a certaines tranches d'âge. Il y a plus de ça, il y a des femmes évidemment, des enfants. Donc, c'est une explosion démographique incroyable.
Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus direct maintenant. Voilà, donc la descente en Égypte, effectivement, elle a lieu quand les Bnei Israël qui descendent sont au nombre de 70. On discute comment on arrive à 70, parce que dans la Torah, on nous fait un compte, mais le compte, il n'y est pas complètement. Donc, il y a des midrashim qui vont expliquer comment on arrive finalement à 70. Et la sortie d'Égypte, donc la fin du processus, elle va avoir lieu quand ils auront atteint ce chiffre, enfin, ce 60 ribo, ça s'appelle. Ribo, je vais tout de suite en parler, c'est-à-dire ce 60 myriades. Et donc, le chiffre de 70, il appartient fondamentalement à la descente en Égypte, c'est-à-dire au commencement de tout ce processus. Et le chiffre de 600 000, 60 myriades, il appartient au processus de sortie d'Égypte. Donc sur les 70, il y a ce qu'on appelle le galout, et sur les 60 ribos, sur les 60 myriades, il y a la geoula, la libération. La première occurrence de cette notion de 70, c'est les 70 peuples. Elle naît, cette occurrence, au moment de la flaga, au moment de la dispersion. Alors, juste un rappel, les peuples, après avoir construit la tour de Babel, ont été dispersés et ils deviennent 70 peuples. Ils ont passé d'abord par une étape où ils étaient unis, quasiment réunis dans un endroit assez limité, et surtout ils parlaient une seule et même langue. Aujourd'hui, on sait que pour nous, l'auteur, le constructeur en chef de la tour de Babel, c'est Nimrod. On sait aujourd'hui que les Goïm l'appellent lui Sargon II, je ne suis pas sûr du chiffre. Et on sait que ce Sargon a décrété que dans son pays, dans le pays qu'il a conquis, tout le monde parlerait la même langue. Il y a donc cette idée d'une langue, elle est attestée effectivement, sauf que dans le Midrash, on dit qu'il parlait la Shana Kodesh, et que là-bas, il parlait la langue de Sargon, je ne sais pas ce que c'était là-bas, un Akkadien, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ces 70 peuples, en réalité, exactement 70, ils sont là par rapport à quelque chose qui va figurer beaucoup plus tard dans la Torah, dans Parshat Hazinu, dans Sefer Dvarim, quasiment la fin de la Torah. Il y a un passouk dans Hazinu, c'est 32.8, pour ceux que ça intéresse. Le passouk dit « Be'anchel Elyon Goim, Be'afrido Bnei Adam, Yatsev Gvulotamim, Le Mispar Bnei Israël ». Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait hériter les peuples, lorsque il a séparé les gens, il a fixé des limites, des frontières pour les peuples, en fonction du nombre des Bnei Israël. Rashi, là-dessus, il commente et il dit que chez Inchil Akadosh Baruch Hu le Machisav, quand Akadosh Baruch Hu a fait hériter, c'est-à-dire il a donné en héritage à ceux qui se révoltaient contre lui, lorsqu'il leur a donné Chelek Nachalatam, leur part d'héritage, donc il a donné à chaque peuple, il a donné la terre qui lui correspondait, alors Hitzifan ve Shatfam. Pour rien du tout, il les a noyés, ça veut dire. Alors, dans un Sefer qui explicite en général le Rashi, là il n'est pas donné, dans l'édition que j'avais, il n'y avait pas donné la référence de Rashi, mais lui, le Mishuto Shel Mikra, Shel Rashi, pardon, il ramène cette référence, il dit que c'est un Sifri. Le Sifri, c'est un Midrash Halakha, c'est donc très ancien, dont Rashi va ne garder qu'une toute petite partie, en fait. Donc je vous lis le Sifri parce que c'est très important. Je traduis tout de suite. Jusqu'à ce que vienne Abraham, si on peut parler comme ça, le monde était jugé par Hachem de façon cruelle. C'est-à-dire, lorsque les gens, à l'époque du déluge, ont fauté, il les a noyés. Il a noyé l'humanité. Lorsque les gens de la tour de Babel ont fauté, c'est déjà une faute en soi, À ce moment-là, il les a dispersés d'un bout du monde à l'autre. Quand les gens de Sodome ont fauté, il les a noyés sous un déluge de feu et de soufre. Donc ça veut dire, tu fautes, je te tue. On a l'impression que c'est la Midat HaDin dans l'attribut de rigueur, dans toute sa force, dans sa plénitude en fait. Aval, mais à partir d'Avraham Avinu, le monde a changé parce que on a un midrash qui dit que Hachem a demandé à Avraham Avinu, est-ce que pour tes descendants, est-ce que, c'est dit en termes, est-ce que tu veux le Géhinnom ou est-ce que tu veux l'exil? Le Géhinnom, c'était le Géhinnom, ça voulait dire, est-ce que si tes descendants fautent, je détruis tout? Ou est-ce que tu acceptes l'exil pour eux, c'est-à-dire, l'exil c'est, si vous voulez même, si on regarde du point de vue halakhique, quand quelqu'un tue, il est passible de mort, même si cette peine de mort est pratiquement académique. Et si quelqu'un tue mais par inadvertance, c'est vraiment, il y est pour rien, il n'a pas fait de faute, mais finalement il a tué, il va en exil. Il va dans ces fameuses villes-refuges, et il passe là-bas en exil, un certain temps jusqu'à la mort du Kohen Gadol, il reste là-bas en exil. Et à ce moment-là, Abraham a choisi l'exil. Et c'est effectivement, ça a commencé directement avec lui, Vahi Ra'av Ba'aretz, quand Hachem lui a promis la terre et qu'il lui a donné, il s'est retrouvé sur la terre de Canaan, qui allait devenir la terre d'Israël. Immédiatement, il y a eu une famine et Abraham est descendu en Égypte. Voilà, c'est ce que je vous ai dit la première fois. Il est descendu en Égypte, ça s'est mal passé avec le rab de Sarah, etc. Il y a les critiques du Ramban. On a déjà parlé de ça, on ne va pas en reparler. D'après ce sifri, on voit que dans le verset qui dit Be'amchel Akadosh Baruch Hu Lemachisav et Trelek Nachalatan Itzifon Ve'Shatfam, alors les Goïm, c'est la génération du Maboul, les Bnei Adam, c'est la génération de la tour de Babel, les gens de Sodome, c'est les générations qui ensuite ont été punies également de façon très cruelle, disons. Et tout ça, c'est jusqu'à ce qu'on arrive le Mispar Bnei Israël, comme c'est marqué dans le passouk de Parshat Hazinu, qu'on a lu, jusqu'à ce qu'Avraham Avinu vienne et que lui, il accepte en quelque sorte de souffrir. Il accepte que, au lieu d'être détruit, on accepte une souffrance. Donc, c'est une nouveauté en fait. Donc Rashi, il prend seulement le début du verset. Ensuite, quand il est écrit dans le Passouk, Afrido bnei Adam, lorsqu'il a séparé les gens les uns des autres, alors Rashi dit, il explique chacun des termes, et il dit Amim, comme si c'était Bnei Adam, les peuples, c'est-à-dire la génération du déluge, la génération de la tour de Babel, pardon. Voilà, donc on a cette idée que, en réalité, ce qui leur arrive aux gens de la tour de Babel, cette dispersion, c'est quelque chose qui va être important pour les Bnei Israël. Cette dispersion, c'est quelque chose de nouveau qui va jouer un rôle pour les Bnei Israël. Ça veut dire, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Zé Leumat Zé. Ça veut dire ceci en rapport ou en symétriquement par rapport à cette autre chose. Donc, il dit, il y a une notion de construction de ce qu'on va appeler Knesset Israël, le peuple juif. assemblée juive, si vous voulez. Et ce processus de construction, il a un parallèle, enfin, ou plus, il a un symétrique, disons plutôt, chez les Goïm, parmi les peuples. Et donc, cette dispersion commence le processus qui correspond par symétrie au processus de construction du Klal Israël. Le Klal Israël commence alors que on est à la tour de Babel, c'est-à-dire on est au temps d'Abraham Avinu, où il manque encore Yitzhak, il manque encore Yaakov et les 12 tribus. Donc ce processus, il a commencé chez les Umot HaOlam, chez les peuples, bien avant que Israël n'existe. Mais c'est un processus qui est mis en quelque sorte dans le monde parce que les Bnei Israël vont avoir besoin de ce processus. Donc on le met, mais on ne le met pas pour les Bnei Israël parce qu'il n'existe pas. On le met dans le monde et il est en réserve en quelque sorte pour que quand les Bnei Israël en auront besoin, il sera déjà là. En fait, chaque peuple est caractérisé par une mida. Mida, c'est une mesure, c'est-à-dire c'est une qualité ou un défaut. Alors, il y a évidemment toujours un éventail de qualités et de défauts, mais il y en a toujours une de caractéristique pour chaque peuple. La notion de peuple, elle n'est peut-être pas, les différents peuples, c'est peut-être pas aujourd'hui la même définition que ce qu'on appelle un peuple. Aujourd'hui, peut-être que ça ne correspond pas au peuple aux 70 peuples. On ne sait pas très bien comment poser ces 70 peuples parmi tous les peuples du monde, bien sûr. Mais en fait, chaque peuple est caractérisé par une mida. Et alors, tout ça, c'est de telle sorte que le Klal Israël, qui lui aussi a l'éventail de toutes les midotes, peut voir ce qu'il advient quand on valorise une certaine mida et on se construit grâce à cette mida, ou autour, avec cette mida. Et donc, ayant cette connaissance, il peut résister à la tentation de cette mida. C'est pour ça qu'il y a ces peuples-là, ils sont là pour aider le Klal Israël à faire ce qu'il a à faire. Et vous me direz, évidemment, c'est du délire, quoi. Le monde entier est au service du Klal Israël. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai au sens suivant. Quand Hachem a créé le monde, il a donné une certaine tâche à Adam Arishon et à Chava, qui n'ont pas fait leur job. Alors, cette tâche-là, elle a été répartie sur toute l'humanité qui suit, qui vient. Mais eux ne l'ont pas fait non plus. Et ils ont fait quelque chose, à un moment donné, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire, et ils se sont tous rassemblés et ils ont parlé cette langue unique. Nous, on l'a déjà vu souvent, à Rosh Hashanah et à Kippour, on prie et on demande à Hashem, Veyasuchulam Aguda Achat Lasot Ritzoncha Belevav Shalem. C'est-à-dire, on demande à Hashem de nous aider à ce que l'humanité tout entière le reconnaisse et le serve Hashem de façon de tout cœur, en quelque sorte. Donc cette unité-là que nous demandons, elle a déjà été réalisée. Mais elle a été réalisée à l'époque de la tour de Babel. Il y a eu une union tellement puissante que dans le texte, Hachem dit, avec cette unité-là, on ne peut pas les arrêter. C'est inarrêtable. Ils ont une puissance énorme. Et donc le seul moyen, c'est de casser cette unité. Et donc on a cette situation tout à fait exceptionnelle. Hachem intervient dans l'histoire et il casse l'unité, il disperse les peuples. De sorte que la construction de la fameuse tour de Babel s'arrête. C'est C'était une tour qui avait pour but de se créer un nom contre Hachem, si vous voulez. Mais il y avait cette puissance et ça a déjà existé. J'ai remarqué que, en réalité, la notion de collectivité, la notion de Klal Israël, elle a un volet qui est ce qu'on appelle le minyan, c'est-à-dire 10 personnes. 10 personnes, on verra ce qu'il en est de ce chiffre 10, 10 personnes, ça forme, d'une certaine manière, le Klal Israël. Quelle est la première occurrence de ce groupe de 10 personnes? 10 personnes, c'est les gens qui peuvent faire quelque chose de grand parce qu'ils ont la puissance du Klal Israël déjà. La première occurrence, c'est quand? C'est lorsque les 10 explorateurs reviennent, ils sont 12, mais il y en a 10 qui reviennent, et qui témoignent de l'impossibilité ou... Ouais, d'entrer en Eretz Israël, on ne peut pas y aller, il ne faut pas y aller, c'est mauvais pour nous, etc. Démoralise tout le peuple et le peuple refuse de continuer, refuse d'y aller. Et bon, c'est un désastre. C'est un tel désastre que, vous vous souvenez, ça fait tomber le fameux sursis que Moshe Rabbeinu avait négocié avec Hachem après l'histoire du veau d'or. Et les Bnei Israël, enfin tous les hommes qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte, vont mourir. Aucun d'entre eux, à l'exception des deux autres explorateurs, de Caleb et Joshua, aucun d'entre eux n'entrera en Eretz Israël. N'entreront en Israël que des gens qui n'étaient pas majeurs au moment de la sortie d'Égypte, qui n'ont pas vraiment vécu la sortie d'Égypte, vous imaginez, ce sont les gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, qui ont vécu le passage de la mer, qui ont vécu le don de la Torah. De ces gens-là, il ne reste rien, sauf Caleb et Joshua. Et tout ça, c'est à cause de ce groupe-là. Ha-Eida, Ha-Ra'a, Ha-Zot. Cette Eida. Eida, c'est construit sur la racine Ed, le témoignage. C'est un groupe témoin. Des gens qui témoignent de quelque chose. Bien donc, cette notion de minyan, elle a existé d'abord dans le négatif. Les choses existent d'abord dans le négatif, avant d'être kulei veulai, on espère, avant d'exister aussi dans le monde, dans le positif en réalité. Donc ici aussi, tout existe d'abord sous la forme négative, et ensuite seulement sous la forme positive. Dans certains cas, les Bnei Israël vont devoir vivre au sein d'un peuple dont la Mida lui paraît peut-être attrayante. Si vous voulez regarder, je ne sais pas, moi, j'ai vu récemment, c'est un livre de Anders qui s'appelle « Ma judéité ». Il décrit la situation des Juifs allemands. Juif allemand qui ne savait pas très bien est-ce que je suis d'abord juif et après allemand ou est-ce que je suis d'abord allemand et après juif. Et après, il y a même eu des penseurs juifs qui ont considéré que l'Allemagne, que la philosophie allemande, les idées allemandes, c'était tout à fait conforme à la Torah. Hermann Cohen, c'est quand on lit ça, il délire complètement. Mais c'est comme ça que le Galout a commencé. Dans Kitvé Agra, dans les écrits du Gaon de Vilna, il dit, c'est toujours extrêmement concis, il dit, avant la faute, les fameuses Kotnot Or, vous savez, dans la Torah, c'est écrit que quand Adam et Arishon et Chava ont fauté, se sont cachés, etc., Hachem leur a fait des cotonnettes, ça veut dire des vêtements de peau. C'est or qui s'écrit avec ein. C'est comme ça que c'est écrit dans nos Sefer Torah, dans le Sefer Torah dans lequel nous lisons, c'est écrit Kot Not Or avec un Aïn. La Gemara rapporte que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est écrit avec un Aleph. Mais le Gaon dit la chose suivante. Il dit, avant la faute, on écrivait Kot Not Or, c'était Kot Not Or avec Aleph. C'est-à-dire les vêtements de lumière. Ça n'a rien à voir avec les Toréador, mais c'est un vêtement de lumière. Et après la faute, c'est Kot Not Or avec Aïn. Avec la lettre Aïn, ça veut dire que c'est un vêtement de peau. Ce changement-là, il se termine à la Aflaga. Il a donc commencé au moment, quasiment à la création d'Adam, avec la faute d'Adam, et il se termine avec la Aflaga. C'est-à-dire que tout recommence encore une fois, puisque comme vous savez, au déluge, tout a recommencé avec... L'humanité recommence avec Noach et ses trois fils et leurs épouses. C'est ça le début de l'humanité. Mais ça se dégrade très rapidement jusqu'à ce qu'on arrive à la Aflaga, jusqu'à ce qu'on arrive à cette dispersion autour de Babel. Et voilà. Après cela, donc ça a mis tout ce temps-là jusqu'à ce que la lumière disparaisse au profit de la peau. Donc ces vêtements de peau remplace ses vêtements de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, jusqu'à la Aflaga, jusqu'à la tour de Babel, donc, et la dispersion, il existait une mini-trace de la situation d'avant la faute. La faute, c'est toujours la faute d'Adam Harishon avec les Etz Hadat, c'est clair. Quelle était cette trace de cette... De cette, avant la faute, c'était justement cette Safa Achat, cette langue unique. Tout le monde porte. Parce que ça faisait référence à la puissance du Yichud, la puissance de l'unité qui était à l'œuvre à ce moment-là, de l'unité, de l'unicité. À la Aflaga, tout est détruit, et ça devient or définitivement pour nous, avec un Aïn. Mais ce n'est pas tout à fait définitif. Le Gaon ajoute qu'à la fin des temps, on reviendra avec Kot Not Or, avec un Aleph, avec le vêtement de lumière. C'est marqué dans le Passouk. Le Passouk, c'est marqué Az, alors, je changerai les langues des peuples de telle sorte qu'ils parlent une langue claire. Il n'est pas écrit dans ce verset, il n'est pas écrit une langue unique, mais une langue claire. Safa Brura. Likro Kulam Beshem Hashem. Avec cette langue-là, claire, ils pourront tous crier le nom d'Hashem. Tout le monde va reconnaître le nom divin. Ça veut dire, l'explication, c'est que dans ce verset-là, la Safa Brura est superflue, ici. Et donc, Chazal disent que ça porte sur la Safa Achat. C'est-à-dire qu'on identifie avec Safa Brura et Safa Achat d'avant la Aflaga. Donc ça veut dire qu'on aura à la fin des temps la situation qu'on avait avant, qu'on avait au tout début. Le fameux Kot Not Or aussi. Et pourquoi? Parce que tous les gens seront à ce moment-là, tous les peuples sont entraînés par ce qu'on appelle le Ichud Agamour, c'est-à-dire l'unicité, l'unité absolue, qui va éliminer toute la partition, puisque la partition c'est le contraire de l'unité, et ça va éliminer la dispersion qui est causée par la faute de la Aflaga, donc qui a mené à la Aflaga, pardon. En fait, c'est Yaakov, dont Chazal disent qu'il a le Dmout d'Adam Harishon. Yaakov, il a la forme. Il ressemble à Adam Harishon. Il y a une espèce de retour. Yaakov, c'est une forme parfaite, si vous voulez, qui est celle de Adam au moment du Adam tel qu'il a été créé. Mais comme Adam a fauté, Yaakov qui porte en quelque sorte il est le représentant, en fait, si on peut parler comme ça, d'Adam Harishon. Adam Harishon, c'est lui qui va porter la charge, qui va porter la douleur des conséquences de la faute. Cette faute-là, elle a créé un processus qu'on appelle Orla. Orla, une des explications que donne Svatémet, par exemple, c'est de dire que c'est Afar Bli Chiyut, de la poussière sans vie. Ça a à voir avec la Orla, c'est-à-dire avec ce qu'on enlève au moment de la Mila, mais la Orla existe, Orla Talev, il y a une Orla du cœur, il y a Orla des oreilles, etc. L'homme est créé à partir du Afar, il est créé à partir de la poussière. Seulement, Hachem lui a insufflé de la vie. Bon, c'est comme ça que on a fait de cette espèce de golem, qui était en terre, poussière, on a fait le fameux être humain. Enfin, l'homme, plutôt. C'est pas l'être. Il y avait probablement d'après Ramban, il y avait, avant cela, il y avait déjà des, au moment de la création aussi du monde animal et tout, il y avait des formes humaines, mais sans le chiyut divin qu'il aurait été donné. Ils avaient la forme, la forme de vie qui existe dans le monde animal. Donc, cet homme, qui est donc créé à partir de la poussière, mais grâce au chiyut, grâce à la vie qu'Hachem lui a insufflé, sans ce souffle, c'est de la poussière, c'est mort. C'est ce qu'Hachem a dit à Adam. Si tu manges du fruit de cet arbre, et de sa date, tu mourras. Et une des conséquences de cela, c'est qu'on est devenu mortel. Tu mourras, ça veut dire que tu deviendras mortel. Une autre conséquence, c'est cette orla, justement. C'est cette fermeture, en quelque sorte, à la vie, qui s'applique aussi, comme je vous l'ai dit, au cœur et aux oreilles. Par là commence le processus de l'entrée dans le galout de l'Égypte, dans l'exil égyptien de façon globale. Voilà. Cette entrée dans le galout de Mitzrayim, d'après ces enseignements-là qui essentiellement viennent du Gaon qu'on trouve aussi dans Svatémet, ça commence avec Adam Harishon. Ça commence avec la naissance de l'homme. Il y a tout de suite cette notion de galoute. C'est repris ensuite d'exil. C'est repris parce que Avraham Avinu a choisi l'exil. Choisi effectivement l'exil. Et donc, si vous voulez, le modèle, il est déjà là chez Adam Harishon. Pourquoi Mitzrayim? Parce que Mitzrayim, c'est à l'échelle de la totalité du monde, c'est la Orla. C'est la fermeture. C'est cette forme de mort, en réalité. Les Chachamim, quand ils parlent de la Shrita de Korban Pesach en Mitzrayim. Avant de sortir d'Égypte, on a reçu une mitzvah qui consistait à faire un korban, c'est-à-dire on a fait un méchoui qui s'appelle Korban Pesach. On a fait la Shrita de l'animal, on l'a dépecé, etc. Et puis on l'a mangé. Et ils l'ont mangé, comme chacun sait, avec la ceinture au rein, etc. Comme on dit le soir du Seder, comme les enfants le disent. Mais les Chachamim disent qu'en parlant de la Shrita du Coran Pesach de Mitzrayim, en Égypte, ils disent que c'est une brisure de la Orla au-dessus de Knesset Israël. C'est-à-dire, c'est le commencement de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est l'élimination de la mort. Cette mort-là qui est tombée sur les Bnei Israël, c'est la mort de la civilisation égyptienne qui est faite pour, qui est une grande civilisation, mais une civilisation qui pour nous, du point de vue des valeurs de la Torah, c'est la mort. C'est la négation de toutes les valeurs de la Torah. Et en fait, quand Moshe a dit à Paro, laisse-nous partir, etc., Paro lui a dit, mais de quoi tu parles? Regarde. Regarde les astrologues égyptiens. Te montrent que le thème astral du Klal Israël, c'est une espèce de planète rouge, c'est la mort. On avait déjà entendu cela. Quand Avram a discuté avec Nimrod, Nimrod lui a dit, mais de quoi tu parles? Ton thème astral, c'est la mort. Tu vas mourir. Avram, il s'appelait à ce moment-là Avram, pas Abraham. Avram, il n'aura jamais d'enfant. Il n'aura pas de descendants. Donc tu me parles d'un peuple, c'est n'importe quoi. Et là-bas, c'était les astrologues chaldéens. Ils disaient la même chose que vont dire par la suite les astrologues égyptiens. Il y a la mort, le clan d'Israël, sous la forme... Le clan d'Israël, il est né deux fois, n'est-ce pas? Il est né une première fois avec Abraham, et une deuxième fois à la sortie d'Égypte. Entre-temps, on a passé par l'Égypte, par le Galout Mitzrayim, et le Rambam, dans Hilchot Avodah Zarah, il écrit qu'en Égypte, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham. Kimat kat, du Rambam. Pratiquement, il n'y a guère que la tribu de Lévi qui savait encore quelque chose. Les Bnei Israël ne savaient plus rien du tout. Tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Donc c'est une vraie renaissance à la sortie d'Égypte avec, où on va recevoir la Torah. C'est quelque chose de... C'est une vie nouvelle. Et le geste du Korban Pessah que les Bnei Israël ont fait au moment de sortir d'Égypte, c'est quelque chose qui a brisé justement cette mort qui allait tomber sur les Bnei Israël. La sortie d'Égypte, encore une fois, c'est l'élimination de cette mort dont parle Moshe à Paro, concernant donc le devenir du clan d'Israël. Chez Avraham Avinu, Hachem lui a dit, c'est vrai, Avraham, tu n'as aucun avenir. Si tu fais la Mila, c'est-à-dire tu enlèves la Orla, et à ce moment-là, je te change ton nom. Et d'Avraham, tu deviens Avraham. C'est un autre sens. De la même manière que je vais changer le nom de ton épouse, qui était Sarah et ma princesse, elle va devenir Sarah, la princesse. Avec ce changement de nom, la gématria de son nom, c'est maintenant 248, donc il lui manque rien, c'est un corps complet, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, il a dit, Tse mi stagninut shelcha, sors de ton déterminisme astral. Il y a un déterminisme, mais il ne s'impose pas. Tu peux décider d'en sortir. Et ça reste la leçon de la Torah. Si on ne fait rien, il y a effectivement un déterminisme. Aujourd'hui, c'est très clair. Mais il y a quelque chose de possible, en fait. Quelque chose qui... Il faut peut-être rêver, il faut de l'imagination, il faut... Mais c'est possible. Et la même chose chez Moshe Rabbeinu. Paro lui a dit, vous avez la mort. Pour combattre la mort, cette mort-là, il a fallu faire ce fameux Korban Pessah. On peut le dire autrement. On peut dire qu'en réalité, les Bnei Israël n'avaient aucun mérite qui leur permette de sortir d'Égypte. Ils étaient nuls. Complètement assimilés. Nuls. Alors Hachem leur a donné deux mitzvot. Ils ont demandé de faire deux choses. Et ça, ce sera, s'ils le font, c'est un mérite suffisant en quelque sorte pour qu'on puisse accrocher le sauvetage des Bnei Israël la sortie d'Égypte. Les deux mitzvot, c'est la Mila et le Korban Pessah. Donc ce n'est pas vraiment deux mitzvot complètement indépendantes, parce qu'on ne pouvait pas, on ne peut toujours pas d'ailleurs, enfin, quand on apportera le Korban Pessah, on ne peut pas approcher le Korban Pessah si on n'a pas fait la Mila. Et la halakha, elle est même que quelqu'un ne peut pas approcher son Korban Pessah. Il faut savoir si jamais on fait ça prochain. Si vous ne faites pas la Mila de vos esclaves, tout le monde a des esclaves, pas? Donc la Mila de vos esclaves et celle de vos enfants, si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas faire le Korban Pessah. Donc, c'était déjà vrai en Mitzrayim. Donc ils ont fait ces deux mitzvot. Je vous rappelle en passant que ces deux mitzvot positives, et ce sont les deux seuls mitzvot qui ont fait une sanction, si on ne le fait pas, karet, le retranchement du peuple. Si on ne le fait pas, ni la Mila, ni le Korban Pessah, quand on est en possibilité de le faire, on est chayav karet. Ça n'existe nulle part, dans aucune mitzvah positive. Ça existe seulement dans les mitzvot négatives, dans le « tu ne le feras pas ». Mais dans le positif, ça n'existe pas. Sauf là, on comprend très bien, c'était les deux mitzvot par lesquels on est sorti d'Égypte. Tu fais pas ça, mais tu sors pas d'Égypte. T'es retranché du peuple. C'est, du point de vue là, c'est très facile à comprendre. Il y avait, d'après le Gaon de Vilna, en Égypte, c'était le rassemblement de toutes les jouissances de ce monde-ci, sous forme d'une vie de dégoûtante, littéralement, du point de vue, avec un chapeau, oui. Dégoûtante, mamash. Ailleurs, il dit que de même que dans la Kedusha, la sainteté, il y a une hiérarchie, il y a ce qu'on appelle avot et ce qu'on appelle toldot, c'est-à-dire il y a des principes fondamentaux et des principes qui en dérivent. Il existe, de nouveau, zé leumat zé, de façon symétrique, dans le côté de l'impureté, il existe deux choses, deux avot en réalité, deux principes fondamentaux. Un, c'est la colère, qui est considérée comme un av, un principe fondamental, c'est la racine de toutes les mauvaises midot dans le nefesh, dans l'âme. Et il y a la ta'ava, qui est le désir, disons, des choses interdites en fait, qui est le deuxième av, qui a les mêmes qualités que le premier. Seulement le Gaon dit que, dans sa définition, on dit que la ta'ava, le désir, n'est pas seulement un av atuma. Il est ce qu'on appelle avi avot atuma. C'est-à-dire le grand-père, pas le père, mais le grand-père, le niveau le plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce que la différence entre un av atuma et avi avot atuma? C'est que avi avot atuma, ça peut enfoncer, enraciner l'homme dans, jusqu'à produire toute une constellation de mauvaises midot. Donc je vous explique un petit peu. Le mort, le cadavre, est dans le domaine de la touma, de l'impureté, il est ce qu'on appelle avi avot atuma. Il est le niveau le plus élevé d'impureté. Parce que c'est la fin des possibilités qu'avait l'être humain. L'être humain était riche de toutes sortes de possibilités, et avec la mort, tout a disparu. C'est pour ça que c'est la touma, c'est la mort. La touma, c'est une forme de mort. La vie avot, la touma, ça n'existe que pour un mort. La raison en est que si on essaye de remonter au tout début des midot de Ouid Bara, on va se permettre de parler de midot, vous savez que j'aime pas ça, mais bon, c'est plus facile de parler comme ça. On trouve, au tout début, on trouve le chesed, on trouve la générosité. C'est marqué, Ki amarti, olam chesed ibane. J'ai dit, dit Hachem, le monde est créé grâce au chesed. Il est grâce à la générosité ou dans la générosité. Alors, comme on vient de le voir, le chesed est particulièrement présent à la création de l'homme en particulier, la formation de l'homme au tout début. Les autres midot, elles relèvent plutôt du fonctionnement du monde. Le chesed, il est à la création du monde, si on peut parler comme ça. Donc, c'est pour ça que le chesed n'est pas un av, c'est-à-dire une mida, une bonne mida parmi d'autres. c'est Avi Avot HaKdusha. C'est le top niveau, ce dont tout procède dans la Kdusha. C'est le chesed de la générosité. Si quelqu'un n'a pas de chesed, si quelqu'un n'est pas généreux, on ne peut rien faire avec lui. On ne peut pas former de couple avec lui, on ne peut pas être en véritable amitié, on peut rien faire. Si quelqu'un est complètement fermé sur lui-même, il n'y a rien à faire. Donc, la destruction de cette Yetzira, de cette création, c'est-à-dire la mort, qui est le retour à la poussière, c'est le zéleumadzé de la Midat Chesed, c'est le symétrique de la Midat Chesed. De même que le Chesed, c'est Avi Avot Agdusha, c'est le Avi Avot Atuma. L'Égypte, cette grande civilisation, c'est une civilisation fabuleuse, était également, ou bien peut-être grâce à cela, la source justement de cette dégénérescence en fait, cette recherche effrénée des jouissances de ce monde, qui avait la possibilité d'enfoncer l'homme dans le mal au point de lui faire oublier d'où il vient. C'est ce que je vous ai dit au nom du Rambam, que en Égypte, on a pratiquement oublié d'où on venait. On a oublié Abraham, on vient d'Abraham. En Égypte, on a pratiquement oublié qu'on venait d'Abraham. Abraham était le créateur du peuple. Grâce à sa mida principale, sa qualité principale, le chesed, il avait la force de créer un peuple. Un peuple qui est capable de reconnaître le créateur. Jusqu'alors, on risquait de s'enfoncer, d'oublier son origine. Ce qui empêche de construire, en fait. Le Gaon dit, c'est pour cette raison que les Chachamim, quand ils parlent de la Avodah Zara, de l'idolâtrie spécifique de l'Égypte, ils disent c'est une espèce d'idolâtrie, moi je l'appelle plutôt métaphysique, par opposition à l'idolâtrie cananéenne, parce que grâce au Nil, c'est aussi une idole égyptienne, mais les Égyptiens n'avaient pas de problème de parnassa, ils n'avaient pas de problème de survie, de nourriture. Donc ils pouvaient se consacrer à autre chose, ils se sont consacrés à peupler le ciel. Ils ont développé une idolâtrie métaphysique, si vous voulez. Alors que en Canaan, la terre d'Israël, la terre de Canaan, elle n'a rien par elle-même. Donc on a toujours besoin de la pluie, on a donc toujours besoin de se tourner vers Hachem. Mais eux, ils ont développé, pour se défendre en quelque sorte, ils ont développé une technologie fabuleuse. Ils étaient capables de gérer les choses, dans leur agriculture, si vous voulez, ils géraient chaque sillon. Je ne vais pas entrer maintenant, j'ai déjà raconté cette histoire. Ils géraient chaque sillon spécifiquement, avec des idoles bien entendu. Avec un composé d'idoles à l'entrée de chaque sillon qui allait protéger le sillon en tenant compte de tout ce que le sillon en question avait besoin, de ruissellement d'eau, de soleil, d'engrais, etc. Donc ça, c'était une idolâtrie très technologique. Alors, en cette Égypte, là, avec le Avodah Zara métaphysique, Chazal appelle cette idole Zvouv, il l'appelle mouche. Pourquoi? Parce que la mouche, comme chacun sait, elle recherche des endroits spéciaux, donc c'est-à-dire la dégradation. Et vous avez l'exemple, par exemple, qui est le Baal Peor, où effectivement l'adoration de Baal Peor, c'était l'adoration des déchets humains, avec des attitudes incroyables. Je ne vais pas dégoûter les gens, il y a de la nourriture sur la table. Et puisque la Orla est la conséquence de ce décret de mort. Ça veut dire que l'être humain, s'il n'y avait pas la faute, il n'avait aucune partie de son corps qui était morte. La faute, elle a fait en sorte que quelques parties de son corps meurent. Elles sont entourées de quelque chose qui est mort. Elles ne sont pas elles-mêmes mortes, mais entourées de quelque chose de mort qui les empêche de donner la pleine mesure de ce qu'elles sont capables de donner. Le cœur, les oreilles, le sexe. Puisqu'elle est donc cette conséquence la conséquence du décret de mort liée à au Etz Hadat, donc, elle est le symbole de la destruction du tout. C'est marqué dans la Gemara, c'est écrit dans la Torah, dans chapitre 30. La Orla est dégoûtante, elle caractérise les Ovde Avolazara, les Harelim, par opposition au fait qu'on dise sur les Bnei Israël, Atem Kruim Adam, vous êtes Adam. C'est-à-dire, vous êtes, non pas vous êtes des hommes et les autres ne sont pas des hommes, mais vous êtes le Adam auquel Hachem a donné au moment de la création la tâche de parfaire, de réparer le monde. Le monde n'a pas été créé parfait, le monde a été créé imparfait, comme tout le monde sait, et c'est aux hommes à le parfaire. Et cette tâche-là, elle a été donnée à Adam Harishon, qui, comme je vous ai dit, n'a pas fait le job. Personne n'a fait le job jusqu'à ce qu'Abraham dise « Mais moi, je suis d'accord d'essayer de faire le job. Moi, je vais le faire. Avec mes descendants, etc. » Et quand nous l'aurons fait, quand nous aurons fait le job, alors l'humanité sera réputée l'avoir fait. Le Mashiach qui vient à la fin de... Quand on a fait le job, il ne vient pas que pour l'Ebné Israël. Il vient pour tout le monde. Donc, on fait le travail, mais ce travail-là, il est fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça a un sens de demander au peuple, en quelque sorte, de nous aider à le faire. Vous ne pouvez pas le faire, vous avez refusé de le faire en tant que peuple. Est-ce que les individus peuvent aider le clan Israël à faire le job, en fait? C'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent, ils devraient nous aider. S'ils comprenaient leur intérêt, ils nous aideraient. Et à la fin des temps seulement, ils comprendront leur intérêt, ils comprendront que c'est bien pour eux, et donc, effectivement, ils s'investiront là-dedans. C'est pourquoi cette orla est dans le processus de Avi Avot Atouma, dans le summum de la Touma. On entre dans ce qui s'appelle Ervat Haaretz, Mitzrayim, au niveau général, au niveau global, c'est l'Égypte, c'est la faille sur Terre, le pays qui représente une faille dans tout l'édifice. Si on va dans le détail, si on va un peu plus profondément, il y a une difficulté spécifique dans le Galout et dans le Shiaboud en Égypte, dans l'exil et dans l'esclavage en Égypte, qui provient de l'échec d'Adam Harishon. Quand Adam Harishon a fauté, il a décidé de se séparer de Chava pendant 130 ans. Talma dans Hérovine, au début du deuxième Pérec. Et du coup, il y a toutes sortes de gouttes de semences qui ne sont pas arrivées là où elles auraient dû arriver. La souffrance de Yaakov, qui a 130 ans, lorsque Paro lui demande quel âge il a 130 ans. Lui, puisqu'il doit réparer les fautes d'Adam Harishon, mais dans un processus des avot, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont en charge de réparer les fautes d'Adam. Tout particulièrement Yaakov. Ça, c'est les patriarches seulement. C'est à eux à faire le job. C'est eux qui doivent le faire. Et il dit, quand Paro l'interroge, il lui dit quel âge tu as, il dit 130 ans, il dit pas 130 ans, il a 130 ans, mais il dit mes années étaient peu nombreuses, elles étaient mauvaises. Pourquoi elles sont mauvaises? Parce que tout ce qu'il a enduré, tout ça, toute la souffrance, toutes les histoires, le fait qu'il n'était jamais en situation de faire ce qu'il voulait faire. Bon, Yaakov, c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas rester chez lui parce que son frère va le tuer. Il arrive chez Lavan, il est obligé de travailler parce que sur l'ordre de son père, Eliphaz, le fils d'Esav, l'a dépouillé, au lieu de le tuer, il l'a tué économiquement. Et quand il choisit une épouse, il est trompé sur l'épouse qu'il reçoit finalement. Ensuite, tout se déroule, c'est jamais lui, c'est pas lui qui nomme ses enfants, ce sont les femmes qui nomment les enfants chez Yaakov. Sauf le dernier, parce qu'il a changé ce que Rachel avait dit sur son lit de mort, il a changé son nom. Mais les autres, ce sont les femmes qui ont nommé les enfants, c'est jamais lui. Donc, dans le processus des Avot, ça vient réparer la faute d'Adam. Rishon, c'est une remarque qu'a faite le Arizal sur le 130 ans. Mais il fallait encore réparer au niveau des fils. On a vu les réparations au niveau des Avot, mais il reste quelque chose à réparer au niveau des fils. Les pères ont ouvert la voie, mais ça devait encore s'actualiser avec les fils. Toutes ces gouttes de semences, c'était en fait celles d'Adam Arishon. La goutte de semence, c'est évidemment le début de la création, de la formation de l'homme. Elle est en fait le point d'intériorité de l'homme, de la forme humaine. Le Pasuk dit qu'Hachem Yatsar est à Adam Bechokhma. Hachem a créé l'homme, il a formé l'homme avec sagesse. Alors, ceci se trouve en quelque sorte à l'intérieur, comme si elle avait un vêtement qui la recouvrait. Ça se trouve donc cette sagesse dans la force du chesed, dans la force de la générosité. Cette générosité là, ce chesed, avec cette Chokhma, qui sont toutes les deux appelées Réchit, commencement, début, c'est ce qui va permettre de créer un nouveau monde, c'est-à-dire la deuxième génération. Et la spécificité de la Chokhma, c'est de s'associer avec tout ce qui est caché dans toutes les idées, en fait. La profondeur, elle est là, cachée en permanence, c'est toujours caché, cette Chokhma, cette sagesse, elle est là, mais elle est dans les profondeurs. Jusque-là, on a parlé des 70, en fait. Je veux dire quand même quelque chose sur les 60 ribots, shishim ribots. Dans l'hébreu de la Torah, en tout cas, le plus grand nombre, c'est Elef, c'est 1000. C'est écrit comme le Aleph. Il n'y a pas de chiffres au-delà de Elef. Donc, ribot, c'est ça les fameuses, qu'on traduit par myriade, mais ribot en vérité, c'est pas un nombre. Ce ribot, comme dans Revava ou de Alphé Rivot, d'accord, c'est des Revavot, c'est construit sur Rav. D'accord. Revava, c'est Rav. Quand on répète, c'est pour accentuer ce qui a été dit en premier. C'est beaucoup. Ou, comme disaient les enfants, très beaucoup. Dans la Gemara, dans Brachot, quand on s'occupe de savoir quelle forme a le Zimoun, quand on est à 3, quand on est à 10, quand on est à 1000, quand on est à 10 000, Là-bas, on utilise le ribot, enfin, ou revava, là-bas. Donc là-bas, on l'évalue à 10 000. Mais c'est pas du tout que ça veut dire 10 000. Ça veut dire beaucoup. On l'utilise, en fait, ce terme, pour décrire quelque chose qui est au-delà du nombre. Je ne peux pas dire parce que c'est... On ne peut pas dire au-delà d'une innombrable, mais au-delà d'un dénombrable dans la version de la Torah, si vous voulez. Au-delà d'un nombre nommable comme tel. Ça commence déjà avec le 10. D'accord ? Le 10, c'est un klal. Parce qu'il n'appartient pas à 1, 2, 3, jusqu'à 9. Là, c'est les unités. Et après, quand vous passez à 10, on n'est plus dans le même monde, si vous voulez, que le monde des unités. Donc, c'est au-delà du nombre. Il existe déjà dans la forme 10. Et c'est pour ça que c'est ce premier au-delà du nombre qui est le minyan dont on a parlé quand je vous ai parlé des 10 explorateurs qui ont témoigné qu'on ne pouvait pas aller en Eretz Israël, de cette Eda Hara'a Azot, ce groupe de témoins, des gens qui témoignent pour le mal. C'est un niveau de perfection, le niveau de au-delà du nombre. C'est parce que, effectivement, Yatsar est un Adam b'chokhma, d'avoir formé l'homme avec sagesse, c'est dire qu'il a été formé au-dessus de la limite des nombres, c'est-à-dire au-dessus des lois de la nature, si vous voulez. Après, le processus des souffrances de l'Égypte, du Galout de Mitzrayim, le Yatsar et Adam de Chokhma, il est pur. Alors, on a enlevé tout ce qui ne marchait pas, on a payé. À ce moment-là, les Bnei Israël sont prêts pour que se dévoile par eux une nouvelle façon de gouverner le monde. Une façon qui est au-delà, au-dessus des Yemé Bréchit, au-dessus des jours de la création, au-dessus du système de la nature, si vous voulez. C'est une anaga, une façon miraculeuse. À ce moment-là, c'est quoi? C'est les niflaot, c'est les miracles, les rotot, les niflaot, etc. C'est la sortie d'Égypte. Enfin, nous sommes sortis d'Égypte, on le sait. Mais évidemment, on ne sait pas comment on est sorti. N'est-ce pas? La Torah ne parle jamais de comment on est sorti. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on était là, en Égypte, et puis un moment d'après, on était hors d'Égypte. Comment on a passé? Personne n'a le film. Personne. C'est-à-dire, c'est impensable. C'est impensable. Vous imaginez? Shishim Ribo, c'est 600 000 hommes. C'est-à-dire, ça doit faire quelque chose comme 3 millions de personnes. 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte en un soir. Alors, on peut imaginer que le clan Israël, il est passé dans un autre monde, qui est hors du temps, qui s'est retrouvé de l'autre côté après. On est sorti hors du temps, en un certain moment. Pas du tout en train de l'expliquer, hein, parce que si moi je pouvais l'expliquer, tout le monde le saurait. Mais on ne sait pas. On n'a aucune idée. Mais ce n'est pas le problème de savoir comment. Nous, ce qu'on tire comme conclusion, c'est ça, c'est comme ça que nous sommes nés. De toute façon, à naissance, personne ne sait non plus exactement comment ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi tout à coup le processus se met en marche. On peut essayer de l'accélérer, on peut essayer. On n'est pas maître. Et on ne sait pas comment ça fonctionne. On peut décrire des choses, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. C'est typiquement le cas d'une naissance. Or, le clan Israël, en sortant d'Égypte, il naît. C'est la naissance du clan Israël. Nous sommes nés. Nous sommes nés en Égypte en sortant. Le ventre du clan d'Israël, c'est l'Égypte. Nous ne sommes pas nés en Eretz Israël. Nous sommes nés une première fois en Mésopotamie, quelque chose là-bas, du côté de Haut-Kasdim, et une deuxième fois en Égypte. Là, cette espèce de drôle de mot de mère patrie, ou je ne sais pas quoi, du clan d'Israël, c'est l'Égypte. Certains disent que l'interdit que nous avons de retourner nous installer en Égypte est du type inceste. C'est la traduction de ce que je viens de vous dire. L'Égypte était Avi Avot à Touma, c'était la Orla du monde. En Égypte, le galout, la souffrance a touché à l'intérieur, au réchit, à l'essence de l'homme, au Avi Avot de la Gdoucha de l'homme, ce fameux point le plus intérieur. De même que la Anaga, la façon de gouverner le monde, de Chochma, qui est l'ouverture du cachet de la Chochma, mais Ain Timatse, d'où est-ce qu'elle elle vient du Ain, la Chochma. Elle vient du néant. Et on a passé de l'ouverture de ce cachet, du cachet de Ain Timatse, dans le monde d'une Anaga Gluya, c'est-à-dire dans le monde d'une direction visible. Hachem s'est manifesté en Égypte. On a vu, on n'a rien compris, mais on a vu. En fait, cette situation, cette nouvelle situation, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui n'avait rien à voir avec le fameux gaspillage des gouttes de semences d'Adam Harishon. Lui, ça s'est incombé au Avot de réparer ça. Chazal dit très clairement, Yaakov Milbar, Moshe Milgav. Yaakov, il avait à s'occuper de ces questions-là, dont on a parlé. Moshe, il est par-dessus tout ça. Lui, il est l'intériorité d'Adam. Il est attaché à l'intériorité du Asher Yassar et à Adam le Chochma, qui a créé l'homme dans la sagesse. C'est pour ça que c'est par lui, par Moshe, que se sont faits tous les changements de l'ordre naturel dans le monde, au moment du Yetziat Mitzrayim. C'est en quoi... Donc l'Égypte qui était Avi Avot à Touma, le Galout touchait donc, je vous ai dit, à l'intériorité, au réchit de l'homme, mais ça c'est le domaine de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a sorti le clan d'Israël, bien sûr avec sur l'ordre d'Hachem, mais c'est lui. La sortie d'Égypte, elle est possible lorsqu'on arrive à la pureté du début de l'homme. 60 ribots de nefashot, c'est-à-dire 60 myriades d'âmes qui étaient prêtes à la forme intérieure de la sortie d'Égypte. Hachem a dit à mon cher Rabbeinu la preuve que vous allez sortir, vous sortirez d'Égypte. C'est lorsque vous sortirez, lorsque tu feras sortir les Bnei Israël d'Égypte, « Ta'avun et ta'elokim ala ha'azé ». Hachem a dit à Moshe, qui était au pied du Sinaï à ce moment-là, c'est là qu'il faisait paître les fameux troupeaux de Yitro, c'est le buisson ardent qui était au Sinaï. Alors, il lui a dit... Quand tu feras sortir les Bnei Israël d'Égypte, comme je te le dis, vous viendrez au Sinaï pour servir Hachem. Vous viendrez ici. C'est la preuve que tu verras. C'est ce qui s'est passé, effectivement. C'est-à-dire que tous les écrans, devant tout ce qui était caché, tout ça, ça s'est complètement ouvert au moment du Sinaï. Chazal disent que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été concrètement libérés, ils étaient déjà presque libérés. Parce que pendant les Makot, pendant les plaies, ça durait à peu près une année, ils ne travaillaient pas pour Paro. Ils ne travaillaient plus. Mais ils étaient encore formellement les esclaves de Paro. Et Moshe Rabbeinu a exigé de Paro, avant de partir, Il a dit, on ne partira pas tant que tu n'auras pas déclaré que tu libères les Bnei Israël de l'esclavage. Toi, ils sont tes esclaves. Je veux une parole de toi, dis-toi, tu les libères. On dit, Paro ne voulait pas. Moshe a dit, c'est pas grave, on peut attendre. Et comme c'était la plaie de la mort des premiers-nés, c'était insupportable, alors Paro, il a mis les pouces, là, il était obligé. Tout s'est ouvert. Alors je vous disais, quand les Israël sont sortis de Mitzrayim, ils étaient libres, c'est-à-dire, formidable. Mais dans leur tête, ils étaient pas libres. On voit ça à deux choses. Ibn Ezra pose une question. Avraham Ibn Ezra, il pose la question. Quand les Égyptiens ont poursuivi les Bnei Israël, ils ont rattrapé à la mer. Les Bnei Israël étaient tellement plus nombreux que l'armée égyptienne, qu'à la limite, ils auraient pu s'y mettre à 10 par cheval de la cavalerie égyptienne. Alors même si 5 étaient morts, finalement ils auraient vaincu les Égyptiens. Pourquoi ils ne se sont pas retournés? Pourquoi ils ont commencé à crier, on est perdu, etc. Retournez-vous et faites la guerre. Alors Avraham Ibn Ezra dit, ils ne pouvaient pas, parce que dans leur tête, ils étaient encore esclaves. Dans leur tête, ils pensaient, ils ne pouvaient pas faire la guerre contre les Égyptiens. Les Égyptiens étaient leurs maîtres encore. C'est une chose. Et ce qui était plus fort encore, c'est que dans leur tête, le ciel, c'était le ciel égyptien. Ils sont sortis avec leur corps, mais leur tête, dans leur tête, le ciel était le ciel égyptien. La construction métaphysique, la construction de l'idolâtrie, enfin, du système idolâtre de l'Égypte, était une construction fabuleuse, qui rendait compte de plein de choses, c'était d'une richesse énorme. C'était faux, bien sûr, mais ça tenait sur beaucoup de choses, ça expliquait beaucoup de choses, soi-disant. Et leur tête, elle était encore entièrement égyptienne. Et il a fallu qu'Hachem ouvre le ciel pour leur montrer qu'il n'y avait rien de tout ce que les Égyptiens disaient qu'il y avait dans le ciel. Sinon, ils n'auraient jamais cru. Même Moshe Rabbeinu, même après la sortie d'Égypte, ils n'y auraient pas cru. Bon, c'est au moins aussi difficile que la révolution copernicienne. Au moins. C'est ça la source du fameux Kotnot Or avec le Aleph qui reviendra à la fin des temps quand effectivement on aura quelque chose qui va être bien plus grand que la sortie d'Égypte. C'est-à-dire la fin de l'histoire, la libération ultime. Je vous rappelle que c'est vrai qu'on a été libéré d'Égypte, mais on est de nouveau en galoute. On l'oublie un peu. De temps en temps, on nous le rappelle. Nous sommes dans le quatrième galout, dans le galout Edom. Le galout qui a commencé avec la destruction du deuxième Beth Amikdash, par les Romains, avec l'exil qui a commencé par l'exil organisé par les Romains. Et nous n'en sommes pas sortis. Ce galout, il porte le nom galout Edom. Edom, c'est Esav. C'est-à-dire qu'il est, ce galout, il est, si vous voulez, un galout qui peut prendre toutes sortes de formes. C'est-à-dire, pendant un certain temps, c'était Rome, évidemment. Mais ensuite, avec qui est-ce qu'on a eu des problèmes? Après Rome, des problèmes avec la chrétienté. Enfin, on a eu des problèmes avec les communistes. Certains disent qu'on aura encore des problèmes avec les Américains. Donc, c'est cette capacité d'Edom, comme Israël d'ailleurs, de bouger, de prendre plusieurs formes, etc. On est encore dans le galout. Et la question que certains posent, c'est à quoi ça a servi de sortir d'Égypte si finalement de nouveau en galout. Bon. J'essaierai d'en parler la prochaine fois. Bonsoir.
Dire que tu es libère. Mais là, je suis dans Kiddushin. Mm-hmm. Là-bas, on pose la question page Tetzain, que pourquoi tu